Bonjour Patrice Wallet, consultant en développement commercial.
Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise.
Bonjour, 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 sur RLP Business numéro 36, RLP Business, l'émission en direct depuis les studios de RLP avec Stéphane et Patrice, Patrice et Stéphane. Nous sommes donc mercredi, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité du commerce, de l'entreprise, de l'économie, du management dans le Périgord et ailleurs avec aujourd'hui avec nous monsieur Jérémy Alafort, médecin esthétique. Bonjour monsieur, vous allez bien ?
Bonjour.
Bonjour, bonjour, qui vient nous voir et nous parlerons aujourd'hui du domaine de l'esthétisme en France et dans le monde. Pat, ça va, t'as passé une bonne semaine ?
Très bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Tu es enrubé, tu nous fais une deuxième e-grippe là,
oui,
cette
oui,
année ?
Oui, oui, je suis le spécialiste de la grippe, de la vraie, de la pure, de la périgourdine.
D'accord, tu es vacciné ?
Mais, ben non.
Ben non, quand tu es vacciné, Covid n'est pas grippe.
Ben non, parce que je dois bien aimer être malade peut-être.
C'est je ne sais pas, écoute, on va en parler. On parlera d'autre chose dans les actualités.
Les actualités.
Alors, il y a un an, débarquait ChatGPT. ChatGPT qui a terrorisé une bonne partie de la population mondiale. Alors, un an plus tard, bonne nouvelle, nous sommes toujours là. On en parlait il y a quelques semaines. Patrice, tu vois comme quoi le marketing par la peur, c'est efficace. Un an plus tard...
Il est là.
Il est toujours là, et nous aussi, d'ailleurs. Alors, j'ai fait un petit test entre différentes IA pour s'amuser, comme ça. J'ai posé une question qui n'est pas sur Internet. Une question très simple. Combien de pattes ont 10 éléphants ? Si deux en sont dépourvus. Alors, avant de commencer, là, monsieur Alafort, combien de pattes ont 10 éléphants si deux en sont dépourvus ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a une anti-sèche ici, si vous voulez, là.
si deux en sont dépourvus, 8 éléphants x 4, 32.
Ah, eh bien, monsieur Alafort est meilleur que bon nombre d'intelligence artificielle, hein, parce que, alors, j'ai demandé à Claude. Claude, c'est Amazon, en fait, derrière, hein, quelques milliards d'euros, là. Eh bien, c'est très bien. Claude a fait une belle démonstration, effectivement. Il y a 32 pattes. Il nous expliquait que, ben, voilà, 10 éléphants x 4, ça fait 40, mais s'il y en a deux qu'on n'a pas, ça fait 8 de moins, ça fait 32. Ok. Alors, j'ai demandé aussi à Perplexity AI, en résumé. Perplexity AI, c'est un nouvel arrivant. Pareil, il m'a dit, en résumé, 10 éléphants auraient 32 pattes, deux d'entre eux n'en avaient pas. C'est une belle démonstration également. Bing. Ben, Bing, il est encore en train de réfléchir. Tu vois, ça a planté la fenêtre, là, parce que Bing, en fait, ne travaille pas comme les autres. Il va chercher sur le web des réponses à ses questions. Il nous donne la réponse avec les liens vers les références. Et ben, là, il est encore en train de creuser. Ça fait, je suis parti, ça fait une heure et demie, deux heures. Là, il tourne toujours. Il a pas trouvé. Chat. Bon, ChatGPT, alors attention, c'est là que ça devient intéressant. On parle beaucoup de cette personne qui est censée nous remplacer, là, ce truc-là. Là. Alors lui, il m'a écrit ça très clairement comme ça. Si deux éléphants sont dépourvus de pattes, cela signifie qu'ils n'ont aucune patte chacun. Donc dans ce cas, les 10 éléphants auraient 40 pattes au total, chaque éléphant en ayant 4, même si deux éléphants n'en ont pas. C'est une logique absolument imparable. Hein, ça c'est de l'assistanat quand même, avec ça on va aller loin, tu vas voir qu'il va nous remplacer beaucoup d'emplois. Hein. Et Bart de Google s'embrouille un petit peu, alors la réponse dépend de la façon dont on interprète la question, il est comme ça lui. Interprétation 1, les deux éléphants sont complètement dépourvus de pattes. Et puis, il commence à raisonner, hein, quand même devant un début de raisonnement, là, dans ce cas il faut soustraire les pattes des deux éléphants du nombre total de pattes que 10 éléphants auraient, c'est tous complets. Donc un éléphant à 4 pattes, 10 éléphants complets auraient 10 x 4 égale 40 pattes, 2 éléphants dépourvus de pattes, il n'y a plus que 32. Donc il arrive quand même à 32, mais il n'est pas sûr. Il y a un deuxième cas, les deux éléphants ont perdu quelques pattes, mais pas toutes. Ah, il fallait y penser déjà, celle-là. C'est vrai que tout seul, moi, je n'aurais pas forcément trouvé. Dans ce cas, il n'est pas possible de donner une réponse précise sans savoir le nombre d'informations, le nombre de pattes perdues par chaque éléphant. Donc, si chaque éléphant a perdu une patte, il y en aura 40 moins 2, 38. Si chaque éléphant a perdu deux pattes, il y en aura 40 moins 4, 36, et ainsi de suite. Bon, conclusion. La réponse à la question dépend de l'interprétation que donne à la question. Il est important de bien lire la question et de comprendre les implications de chaque interprétation possible. Voilà, voilà, voilà. Ah, bah écoutez, je suis assez songeur parce que moi je passe pas mal de temps avec ces outils-là et moi je maintiens que technologiquement on va encore évoluer, je maintiens que derrière on nous vend encore, on nous survend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Un avis peut-être sur ça avant que je passe à l'Apple Vision Pro, Pat ?
Oh non, je n'ai pas un avis, je m'aperçois que à l'âge que tu as, tu te poses encore des questions qu'on t'a posées à l'école primaire, des bonnes petites questions mathématiques, de quelques...
Ah, j'aurais dû faire les robinets.
Tu vois, ben oui, le robinet.
Je J'aurais dû faire les robinets.
Ou le train, tu sais, le train qui part de Paris.
Tout à fait. Et comme quoi, tu vois, c'est pas gagné. Hein.
Alors, ce qui prouve bien que l'intelligence artificielle n'est plus ni moins que la production de la nôtre, d'intelligence, et que ça, c'est qu'une mécanique qui ressemble à l'homme parce qu'elle a été créée par l'homme, donc à une question hyper intéressante, des réponses plurielles, variées en fonction de comment fonctionne le cerveau de l'un et le cerveau de l'autre.
Oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous l'a vendu par la peur il y a un an, puis qu'un an plus tard, on se rend compte que le désastre n'est pas arrivé. Voilà. C'est... Monsieur Alafort, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'IA, de tout ce battage ?
Que ça apportera forcément des améliorations et des avantages à l'humanité, mais de toute façon, ce seront toujours les humains qui seront derrière et qui la, pas forcément domineront, mais qui la manageront.
Vous l'utilisez, vous mettez individuel déjà ?
Non. Pas encore.
Vous dialoguez un peu avec un assistant pour résumer des choses, pour avoir des idées, pour analyser certaines choses?
Non, pas encore.
Non. La médecine, votre médecine n'est pas encore assistée par...
Alors, pas encore, mais ça arrive. Oui. Mais ça reste une aide.
Bien sûr, c'est une aide. Moi, quand j'étais en Asie à l'hôpital, il avait un truc à côté qui lui disait, il suggérait des choses de manière synthétique.
Ouais, j'avais lu récemment d'ailleurs qu'il y a eu des expériences qui ont été menées sur une nouvelle solution d'IA qui interprétait les scanners médicaux, les radios. C'est pas des radios.
Ouais, ça fait un an et demi qu'on disait que ça allait soi-disant remplacer les radiologues.
L'imagerie, et qui trouvait quand même qu'il y avait une lecture pertinente. Enfin, une fois de plus, c'est une lecture qui a été programmée par l'homme.
Hein, c'est une lecture analytique, mathématique. Donc, en fait, elle peut agréger et faire des statistiques plus rapidement que toi et moi, de manière mécanique. C'est surtout ça l'avantage.
Elle sera jamais au-delà de ce que l'homme peut penser. Elle va plus vite.
Ça dépend. Oui, ça dépend comment on l'envisage. Mais tout à fait. Alors, je voulais parler un peu de l'Apple Vision Pro, qui est une prouesse technologique, encore un pas vers ce monde du futur, que nous sommes si nombreux à appeler de nos voeux, qui dépasse nos limites, pour étendre nos capacités, maîtriser la matière, conquérir les étoiles. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est un écran, la 3D, les interfaces, donc les gens ont une espèce de truc de ski sur la tête, et puis ils ont les mains comme ça, qui avancent sur le truc virtuel. Moi, je crois que je vais adorer, mais il y en a quand même pour un peu plus de 3000 balles. Donc peut-être que les salaires américains aussi devraient venir en France, hein, pas uniquement leurs produits de luxe. Alors, France, pays de contraste, sous influence américaine, et pourtant bien loin de la philosophie anglo-saxonne, le petit patron de PME, l'indépendant, écrasé par les charges et les normes, ne nous contredira pas.
L'invité de la semaine.
Alors, Patrice à l'antenne, Monsieur Alafort, Jérémy Alafort, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin esthétique.
Exactement.
Alors, c'est une profession que je ne pense pas que beaucoup de gens connaissent. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre profession ?
Alors, en fait, c'est une profession qui est relativement récente, car la médecine esthétique existe depuis à peu près une grosse quinzaine d'années. Donc, effectivement, c'est récent. Exactement. Elle est née en fait de nouvelles techniques qui sont apparues pour la prise en charge des patients, pour correspondre à des demandes, et l'évolution de la technologie, notamment des lasers. Il y a eu une énorme évolution sur les dernières années, ce qui permet de répondre et de traiter et de prendre en charge des pathologies dont on ne s'occupait pas avant.
Alors, qu'est-ce que vous traitez ? Est-ce que vous traitez, j'ai envie de dire, des accidents de la nature ? Ou est-ce que vous traitez, j'ai envie de dire, un confort, un développement, une amélioration de la beauté ? Comment on peut définir l'esthétique dans votre métier ?
Alors, on va être dans l'entre-deux. Accidents de la nature, pas réellement, c'est souvent plus de la réparation chirurgicale dans ces cas-là. Mais après, on va être vraiment dans l'amélioration. La société a évolué, a changé dans ces dernières années. Les réseaux sociaux ont pris une part plus importante. Le télétravail s'est développé. Les gens se regardent beaucoup plus, font beaucoup plus attention à leur image. Et finalement, souhaitent renvoyer au reste de la société une image plus positive. Parce qu'on est tous marqués, le travail, le stress, toutes les contraintes, en fait, ont un impact sur notre corps, sur notre organisme qui peut se voir. Et la demande des patients est celle-là,
en fait. C'est incroyable, d'ailleurs, le rapport qu'on a à l'image et à notre image, parce que je vois que de plus en plus, les gens se photographient avec leur smartphone. Hein,
font des selfies.
Font des selfies, mais au-delà du selfie... on va dire que peut-être que 9 images sur 10 sont retravaillées avec les outils embarqués de nos smartphones, c'est-à-dire qu'on gomme les rides, on affine les traits, tout ça, ça se fait automatiquement. Donc on a vraiment un rapport avec notre image particulier, comme si on n'était jamais satisfait et comme si on souhaitait toujours être un peu autrement, un peu amélioré. C'est ça les clients qui viennent vous voir, c'est ça la demande que vous ressentez ?
Alors, la demande, elle est surtout, c'est pas forcément d'être amélioré, mais c'est d'avoir l'air moins marqué, moins fatigué, moins peut-être usé. Voilà, c'est plutôt une demande dans ce sens-là. Je n'ai jamais j'ai personne qui rentre et qui me dit, bah, j'ai envie de faire 10 ans de moins, j'ai envie de faire 20 ans de moins.
La demande. Pas encore. Parce que j'ai ça, c'est une loi franco, mais donc oui.
C'est vrai. Mais nous, c'est pas les demandes qu'on D'accord. a dans nos cabinets. C'est vraiment, docteur, j'ai l'air fatigué, j'ai l'air marqué. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que moi, je me sens bien et puis je n'aime pas l'image que je renvoie au reste de la société.
D'accord. Donc on a une relation avec l'image et avec le temps. Avec, alors peut-être pas réellement sur notre âge, comme vous l'avez dit, c'est peut-être les États-Unis qui sont demandeurs de rajeunissement, mais plus sur un état qu'on veut corriger pour paraître peut-être plus dynamique, plus frais.
Plus frais.
Oui, je comprends.
D'accord. Alors, il faut quand même savoir que le marché de l'esthétisme, hein, au niveau mondial, représente 17 milliards de dollars. C'est un marché qui est en progression. Fait nouveau, en 2023, l'Union européenne se place désormais au troisième rang, derrière la zone Asie-Pacifique, et la première étant effectivement les USA, en taille de marché. En France, on a 2500 à 3000 praticiens exerçant à la fois médecine générale et esthétique. Ça fait un certain nombre quand même, ça commence à peser. Et grosse nouveauté sociétale, en tout cas pour nous latins, les hommes représentent environ 20% de la clientèle. Voilà, donc il y aurait eu 744 000 actes esthétiques en 2019, dont 321 000 en chirurgie esthétique et 423 000 en médecine esthétique, injection d'acide hyaluronique ou de Botox. Et nous sommes au 8e rang mondial en France, selon la Société internationale de la chirurgie esthétique. Est-ce que ça correspond, docteur, à ce que vous constatez, vous, autour de vous, dans les salons que vous faites, dans votre activité, auprès de vos collègues, tout ça ?
Oui, complètement. La part des hommes que vous évoquiez, 20%, c'est la part au niveau national.
D'accord.
Et après, il y a une différence en fonction des lieux d'exercice. C'est-à-dire D'accord. que mes confrères qui vont être installés dans les grandes métropoles françaises, Paris, Bordeaux, Lyon, vont avoir un taux de patients masculins bien supérieur.
D'accord.
Okay. Oui, c'est très surprenant d'ailleurs, parce que on quoi qu'on le voit bien quand même d'ailleurs dans nos petites villes, il suffit de regarder le nombre de barbiers qui se sont installés. Alors moi, j'ai une petite expérience dans le monde de la coiffure, j'ai travaillé dans ce domaine-là et le nombre de barbiers a explosé, c'est-à-dire que les hommes font et sont demandeurs de soins,
On est en retard ici.
De coupes et alors bien sûr qu'on est en retard si on prend la province par rapport...
Non, mais je veux dire, quand j'étais en Irlande, moi j'aimais bien, je laissais pousser durant 4-5 jours, puis j'allais voir quelqu'un avec le rasoir, là, qui me rafraîchissait tout ça, c'était super bien.
Oui, peut-être.
Ça existe très peu ici, non ?
Oh, enfin, ça
commence, d'accord, peut-être,
ça,
ok.
Oui, ça commence,
moi, j'ai découvert ça à Dublin, il y en a
ça, ça commence à bien s'implanter.
Et oui, je peux comprendre.
Mais tout est lié, une fois de plus, à l'image qu'on nous vend, à l'image qu'on nous fait voir. Aujourd'hui, il suffit de regarder la télévision, tous les acteurs, dans toutes les émissions, les hommes sont très apprêtés, sont coiffés, sont soignés. Et donc, de par ce fait, ben, on a une demande qui se développe au niveau du consommateur. Et c'est la relation que je voulais faire avec vous, Jérémy Alafort. Dans l'esthétique que vous pouvez pratiquer, moi j'ai envie de dire qu'il y a une vingtaine d'années, c'était beaucoup de femmes qui étaient clientes, qui étaient demandeuses. Et les hommes arrivent vraiment, sont demandeurs.
Oui, et de plus en plus. Et toutes les projections nous montrent que dans les années à venir, cette proportion que vous avez évoquée de 20% ne fera qu'augmenter. C'est-à-dire que petit à petit, on tend vers un équilibre, une vraie égalité.
Et donc, on est passé d'une demande à une époque qui était peut-être plus de la chirurgie esthétique, hein, c'est-à-dire de faire un lifting, de faire des interventions peut-être un peu plus lourdes, à aujourd'hui, on a une demande qui est plus... J'ai envie de dire, comment on pourrait la qualifier, plus, plus
beaucoup moins invasive.
Moins invasive. D'ailleurs, c'est très bien dit.
Qu'est-ce qu'ils vous demandent?
Alors, pour répondre.
Qu'est-ce que les gens demandent? Voilà.
Alors, pour répondre, en fait, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, les seules techniques qui existaient, en fait, étaient chirurgicales. C'était globalement, à visée anti-âge, le lifting, on retendait les tissus. Et la technologie a évolué, l'acide hyaluronique s'est développé, le botox s'est développé, et on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir de très, très beaux effets pour anti-âge, anti-âge et pour rafraîchir, ce dont on parlait tout à l'heure. Et avec des techniques finalement beaucoup moins invasives, c'est-à-dire qu'il suffit de prendre rendez-vous, un premier rendez-vous, on va discuter, puis après on prend rendez-vous pour son acte, mais derrière on repart travailler. Là où une chirurgie, ça va être une hospitalisation, une anesthésie et des suites qui ne sont pas du tout les mêmes. Et donc la demande, en fait, les gens n'arrivent pas dans nos cabinets alors, il y a deux types de patientèle. Ceux qui ont déjà l'habitude de pratiquer des soins, donc qui ont l'habitude de ce qu'ils aiment et qui ont une demande très précise. Mais l'autre partie de la patientèle, elle ne sait pas trop. Elle sait que sa demande globale, c'est de vouloir avoir l'air plus frais, comme on l'a déjà dit. Mais après, comment, pourquoi? Et là, tout notre rôle est d'expliquer en fait, les différentes techniques que nous avons, souvent par injection d'acide hyaluronique ou injection de toxine botulique, ou alors les lasers qui ont pris une place... également très importante dans notre activité, qui permettent de traiter la peau, le relâchement, et qui permettent d'avoir des très très beaux effets, là encore, avec des techniques finalement très très peu invasives.
Ces techniques, ces produits que vous utilisez, le Botox, les différents produits que vous avez cités, on est producteur en France de ça, ou c'est des marchés qui nous échappent?
La production est soit européenne, soit française. Ça dépend. Il y a cinq, six gros acteurs, mettons, en acide hyaluronique, dont un produit en France.
Très bien.
Un autre produit en Belgique. Ça peut rester local.
Oui, sur des productions, j'ai envie de dire, proches.
Exactement. La toxine botulique, à ma connaissance, alors il faudrait vérifier pour être certain, non, il n'y a pas de production locale.
D'accord. Très bien.
Alors, pour comprendre un petit peu, le Botox, ça sert à faire se contracter quelques muscles, à tendre la peau, c'est
à faire justement décontracter les muscles.
Décontracter les muscles et tendre la peau. L'acide
hyaluronique sert à faire du comblement. Comblement, c'est-à-dire qu'avec les années qui passent, nous synthétisons tous moins d'acide hyaluronique, nous perdons un petit peu notre graisse sous-cutanée, ce qui fait que quand à 20 ans nous avons des beaux visages sans rides, avec des creux, des bosses, et les années qui passent font que la peau se relâche, donc il y a moins de substance, et on se sert de l'acide hyaluronique pour remplacer cette substance qu'on a un petit peu perdue et à la mettre et l'injecter à des points stratégiques de façon à restructurer un petit peu de façon extrêmement naturelle le visage.
Troisième que vous avez indiqué, c'était la toxine de...
Et les lasers. Botulique,
oui.
Pour détendre les muscles.
D'accord.
Donc pour avoir un effet de lissage, lissant.
Toxine botulique et Botox, c'est pareil.
C'est pareil,
exactement. D'accord. Et est-ce qu'on vient vous voir aussi pour les grains de beauté, les boutons, les points noirs, ce genre de choses?
Alors, moi, être la qualité de la peau.
D'accord.
Le grain de beauté, on est vraiment là, pour le coup, dans une médecine conventionnelle, ça va être plutôt le dermatologue qui va s'en occuper.
D'accord.
Même si je vais toujours avoir un avis, mais ce n'est pas mon travail fondamental.
D'accord. Comment ça se cerne? C'est vraiment la peau du visage, c'est ça?
Exactement.
D'accord.
Moi, j'étais très surpris, docteur, sur... la tarification. Je voulais savoir un petit peu dans quel niveau de tarification ces techniques, ces services que vous proposez. Et j'étais vraiment surpris parce que j'ai vraiment trouvé que c'était des prix tout à fait abordables. Alors, je n'ai pas été sur votre site. D'ailleurs, je ne savais même pas que vous en aviez un, mais j'étais plutôt sur d'autres sites. Et j'ai vu des tarifications. Enfin, c'est des interventions qui sont à la portée. Alors, on ne peut pas dire de tout le monde, bien évidemment, mais enfin, de la portée de celui qui réellement le souhaite, il peut s'en donner les moyens.
Ça coûte combien, voilà?
Alors,
le marché, hein,
oui,
forcément,
oui, bien,
vous.
Oui,
le
non,
marché,
non, mais bien sûr. En fait, on est dans une médecine qui n'est pas remboursée par la Sécurité sociale.
Oui,
c'est-à-dire que chaque praticien est libre de fixer ses prix selon les critères qu'il va considérer. Et après, effectivement, il y a un prix, on va dire, globalement moyen. En fonction des types de produits. Même une seringue d'acide hyaluronique, alors classiquement un prix moyen va être entre 300 et 400 euros, ce qui peut faire, déjà 100 euros c'est beaucoup, mais parce qu'en fonction du type de produit qu'on va injecter et du type de zone, et bien déjà l'acide hyaluronique est complètement différent, il ne va pas du tout avoir le même coût d'achat. Donc quand on fixe ces tarifs, on est vraiment dans un raisonnement d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'on va prendre, on va se dire, ben voilà, ma matière première, je l'ai achetée tant. Après, ben il faut le cabinet, les coûts de fonctionnement vont coûter tant. Et après, on établit ces tarifs.
Bien sûr, parce que j'ai vraiment remarqué, c'est que les interventions, les services sont à la portée, j'ai envie de dire, de celui qui veut cette prestation.
Qu'il enfin, souhaite,
dire, c'est pas un frein. C'est-à-dire que même s'il fait peut-être un peu d'économie, j'ai envie de dire, pour atteindre pour avoir ce service.
Les 200-300 euros, par exemple, ça dure combien? L'effet dure combien de temps?
Alors, une seringue d'acide hyaluronique, classiquement, l'effet sur une première injection dura entre 15 et 18 mois.
D'accord.
Oui, c'est okay. Quand même...
Oui, d'accord. Okay. Il y a un traitement Botox.
Le Botox, ça dure toujours moins longtemps. On est plutôt sur une durée de 6 mois. Pour l'instant, l'industrie pharmaceutique n'arrive pas à créer de toxine botulique qui ait une durée d'action supérieure.
D'accord. Est-ce qu'il y a des professions qui sont plus demandeuses que d'autres ou des...
Absolument pas.
Non.
Il faut vraiment savoir que dans nos cabinets de médecine esthétique, nous avons vraiment toutes les classes sociales, c'est-à-dire toutes les classes sociales et vraiment toutes les professions. Je n'ai aucune statistique, enfin aucune profession dans mon activité moi à Périgueux qui ressort par rapport aux autres.
C'est exactement ce que l'on m'a dit dans le domaine de la coiffure. Ce parallèle elle peut paraître curieux, mais c'est un domaine que je connais, donc j'ai quelques sources. Dans le domaine du soin capillaire, du soin de la barbe, justement, la clientèle est tout azimut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un profil particulier. Vous allez trouver du cadre supérieur, vous allez trouver de la classe ouvrière, vous allez même trouver des gens sans emploi, mais qui ont envie d'être beaux, qui ont envie de se sentir bien dans leur peau. Et ça peut tout à fait se comprendre et c'est à la portée de tous.
Le seul point commun est que tous nos patients ont comme particularité de vouloir prendre soin d'eux, tout simplement.
Oui, bien sûr, voilà. Bien sûr.
Alors, on va rappeler que pour être médecin esthétique, il faut être médecin généraliste.
Alors, pour être médecin esthétique, il faut déjà être médecin.
Ça,
c'est la première des conditions.
Donc, médecin général, d'accord, l'abus de langage, mais c'est médecin, d'accord. Donc, c'est les 6 ans, 7 ans d'études.
La médecine esthétique, alors déjà, c'est 9 ans. Enfin, voilà, le prérequis, ça va être 9 ans. Et après, la médecine esthétique peut être pratiquée par toutes les spécialités médicales, dès lors où on s'est formé. C'est-à-dire, vous avez des dermatologues qui font que de la dermatologie esthétique. Vous avez et toutes les autres spécialités, dès lors où ils se forment et qu'ils font les diplômes complémentaires.
Donc, par exemple, vous êtes encore en possibilité de faire une ordonnance, vous avez toujours votre matriculation de médecin.
Comme tous les médecins, tout
d'accord,
à fait.
Donc on va voir un médecin esthétique, on va voir quelqu'un qui a fait 9 ans d'études plus une spécialisation.
Exactement, c'est-à-dire qui est médecin de base, souvent dans les médecins esthétiques, souvent médecin généraliste, mais après ça peut être tout à fait d'autres spécialités, et qui ensuite a appris à faire de la médecine esthétique.
Par contre, et moi ça m'intéresse au niveau multiculturel, est-ce qu'il y a des limitations en France par rapport à ce qu'on peut croiser dans d'autres pays du monde, d'Amérique et autres? Il y a des limitations au niveau de la publicité, des interventions, des domaines? C'est comme aux USA, c'est comme ce que j'ai trouvé en Asie, ou c'est différent chez vous?
Alors non, c'est pas comme aux USA. Pour nous, toutes les professions de santé en France sont régies par le code de l'ordre des médecins. Par exemple, nous, la publicité est formellement et strictement interdite.
D'accord.
Voilà. De façon à ne pas rentrer dans un espèce de marché.
Parce que là-bas, ils nous vendent des actes, on va le dire clairement.
Tout à fait. Tout à fait.
Est-ce qu'il y a un moyen, alors je me mets vraiment dans la peau du consommateur, est-ce qu'il y a un moyen, enfin, j'aurais envie peut-être d'un petit coup de frais, voilà, pour être très clair, mais ce petit coup de frais, j'ai envie de dire, bon, je n'arrive pas à me le représenter, j'en ai envie, parce que bon, parce que j'ai l'âge de mes artères, mais en fin de compte, je ne suis pas spécialiste, donc je ne sais pas trop ce que je pourrais faire. Où est-ce que vous intervenez? Comment vous pouvez me conseiller? Parce que d'un côté, c'est très perso, et d'un côté, je n'ai pas non plus un miroir magique. Oh, mon beau miroir. Comment vous faites pour amener du conseil dans ce domaine un peu, un peu spécial.
Là, tout est de la technique, justement, pour réussir à vous expliquer ce que tel ou tel traitement va pouvoir vous apporter et quel va être le résultat. Et effectivement, sur des premières consultations sur des patients qui n'ont jamais eu, qui n'ont jamais fait de médecine esthétique, c'est toujours la question. Il y a aussi toujours une peur, en fait, d'être déformé, d'être transformé, parce qu'on veut avoir meilleure mine, mais on veut que ça s'arrête là, en fait. Et ça, ben, tout est dans la technique du médecin que vous irez voir, de vous expliquer. Et justement, vous parliez tout à l'heure en début d'émission d'IA, l'IA peut nous aider et nous aide énormément, enfin, peut nous aider beaucoup. Aujourd'hui, des logiciels existent et fonctionnent extrêmement bien. Et on peut, en prenant des photos en 3D, après vous montrer sur votre visage à vous quelle va être l'incidence.
Et ça, c'est une technique que vous avez aujourd'hui ou qui arrive ?
Alors, moi, dans mon cabinet, non pas encore, mais qui est en train de se généraliser.
D'accord, donc dans quelques mois, c'est quelque chose qui va rentrer dans les cabinets.
Oui, c'est déjà rentré dans certains cabinets. C'est quelque chose qui est en train de se démocratiser dans la profession.
Vas-y.
Comment vous voyez votre profession à court ou moyen ou long terme, comment vous la projetez, votre profession ?
Par une évolution des techniques qui sont déjà majeures. Moi, ça fait que quelques années que je suis médecin esthétique et déjà mes techniques de travail ont beaucoup évolué. Et c'est ça qui c'est un côté extrêmement intéressant dans ce métier, c'est qu'on est là pour faire toujours mieux, pour apporter toujours plus de services et de satisfaction, tout en restant évidemment dans le naturel et tout en ne faisant que des choses harmonieuses. Et pour moi, la demande des patients ne va qu'augmenter. On voit ce qui se passe dans d'autres pays dans le monde, où vous prenez le Brésil, vous prenez les États-Unis, avoir recours à des soins de médecine esthétique.
C'est de la consommation courante.
Voilà, sont devenus de la consommation courante.
C'est de la consommation courante, sans aucun scrupule, ni aucune culpabilité.
Donc là, voilà. Alors nous, en France, on a encore la chance de... Voilà, que vous avez affaire à des médecins qui ont une éthique et moi il m'arrive et à tous mes autres confrères également de temps en temps dire non, c'est pas parce que vous arrivez que vous allez me demander quelque chose que je vais le faire sous prétexte que
oui, parce que ça c'est un autre problème, c'est où est-ce qu'on accepte, j'ai envie de dire quelque part, le rêve du client, hein. Est-ce qu'on lui met une limite ou est-ce qu'on s'exécute à 100%, mais ça c'est un autre sujet.
Exactement.
Jérémy Alafort, est-ce que vous participez parfois à des conférences, vous avez un ouvrage, vous vous exprimez sur ce domaine parfois ?
Alors m'exprimer, moi non, mais participer à des congrès et des conférences, oui, très souvent. Oui. C'est justement là où toutes les... c'est, déjà, ça permet de rencontrer des confrères
Bien
et
sûr.
De discuter avec eux et d'échanger avec eux. Et ça permet de voir un petit peu tout ben, ce que font les autres, c'est-à-dire que certains essayent avec plus ou moins de... Voilà, certaines techniques peuvent sortir et nous apprendre et vraiment nous permettre d'améliorer.
Tout
donc c'est très fréquent.
Donc Jérémy, J-E-R-E-M-Y, à la fort A-2-L-A-F-O-R-T, qui est donc nous parler de l'environnement, de l'esthétisme aujourd'hui en France et de ses caractéristiques. Monsieur, merci beaucoup d'être venu.
Merci.
Bon. Merci à vous.
Patrice, à la semaine prochaine.
Bien sûr, bien sûr.
Allez, au revoir tout le monde, bye bye, ciao, ciao.
RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle exige des trésors satinés. Doré à souhait.
RLP.
Radio Libre en Périgord.